France Inter.
Bienvenue à tous à la une de ce 13h. Une Ukrainienne de 12 ans tuée à Kiev. La capitale a subi la nuit dernière une très importante vague de drones et de missiles. Nous y serons en direct. À l'ouest de l'Ukraine, il y a la Moldavie, pays voisin qui vote aujourd'hui. Élection législative déterminante pour la poursuite ou l'arrêt du processus d'intégration au sein de l'Union européenne. À la une également, François Bayrou, le revoilà. En discours aux universités de rentrée du Modem, nous rejoindrons notre envoyé spécial Laurence Perron. Menace de censure à gauche, immédiate pour LFI, alors que les socialistes seraient prêts à donner encore un petit peu de temps à Sébastien Lecornu. Y a-t-il une unité de stratégie à gauche? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, le sénateur communiste et conseiller de Paris, Yann Brossa. Les championnats du monde cyclisme sur route à Kigali et l'abandon ce matin du français Julian Alaphilippe. Pogacar en favori, nous serons en direct à Kigali. Et puis, à la fin de ce journal, nous allons partager un coin champignon. Nous irons en Côte d'Or. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta avec une France coupée en deux.
Oui, avec des éclaircies pour la moitié nord et un ciel plus nuageux pour la moitié sud.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Toujours plus violente, toujours plus massive, l'offensive russe en Ukraine. La nuit dernière, la Russie a lancé un demi-millier de drones et une quarantaine de missiles sur la capitale, Kiev. Des infrastructures civiles ont été touchées. Bonjour Bastien Bory.
Bonjour à vous.
Vous êtes donc en direct de Kiev. Il y a au moins 4 morts, dont une enfant.
Oui, et ce sont des raids nocturnes qui évoluent d'abord dans leur longueur. Les alertes aériennes ont été actives hier de 23h à 8h du matin, soit une attaque de 9h. Et dès le début, on a vu un premier essaim de drones kamikazes russes s'approcher de la ville en survolant en rase-motte le fleuve du Dniepr, la plupart d'entre eux ayant servi à faire diversion pour leurrer la défense ukrainienne. Et s'en est suivi immédiatement après une salve de dizaines de missiles tirés depuis de vieux avions russes Tupolev Tu-95. Et c'est là, la deuxième nouveauté ou triste nouveauté, c'est l'utilisation croissante par la Russie d'un arsenal hérité de la guerre froide en réalité. Les Tu-95 sont des bombardiers géants avec 4 turbines apparentes, un fuselage argenté typique construit dans les années 50. 5 d'entre eux ont décollé hier d'une base russe éloignée dans l'Arctique et les tirs de riposte ukrainiens n'ont pas empêché au sol la destruction de plusieurs immeubles. 4 corps en ont été extraits. Et puis un dernier point, il y a une autre évolution dans la tactique de l'armée russe qui change désormais brusquement la trajectoire de ces drones kamikazes. Ceux-ci fondent au dernier moment sur des villes ukrainiennes qui ne pensaient pas être visées. Cela laisse encore moins de temps aux habitants pour aller s'abriter, d'où ces pertes importantes cette nuit.
Et la Russie qui rétorque ce matin n'avoir touché que des cibles militaires. C'était Bastien Bory en direct de Kiev. L'Ukraine donc voisine de la Moldavie. Voilà pourquoi nous regardons avec intérêt ces élections législatives. Aujourd'hui, les Moldaves ont le choix entre les pro-européens au pouvoir et les partisans du Kremlin. Et le résultat ce soir déterminera la poursuite ou la fin du processus d'intégration de la Moldavie à l'Europe. Dans un bureau de vote de Chișinău, capitale moldave, reportage de notre correspondante Maria Gert Niculescu.
Plus de 3 millions de Moldaves sont appelés aux urnes ce dimanche. Pour beaucoup, l'enjeu géopolitique de ce scrutin est clair. Sergueï, 18 ans, vote pour la première fois de sa vie.
L'élection d'aujourd'hui est un test pour voir si les Moldaves choisissent le chemin européen ou celui pro-russe. Si le résultat de demain montre une majorité pro-russe, j'envisage de partir dans un pays de l'Union européenne. Je ne vois pas mon futur ici si les oligarques sont au pouvoir, car ils vont tirer le pays vers le bas.
Vadim est venu avec sa fille et sa femme, Galina. L'autocollant « J'ai voté » est fièrement apposé sur leur blouson.
J'ai voté pour le développement de la Moldavie, pour la tranquillité et la paix, pour un mode de vie décent, pour nous, pour nos enfants et pour nos futurs petits-enfants.
La Russie espère une défaite du parti Action et Solidarité de la présidente Maya Sandu. Pour cela, Moscou a mené une campagne d'ingérence massive et compte en partie sur les régions russophones pour rejeter les aspirations occidentales de la Moldavie. De son côté, le parti pro-européen espère une mobilisation dans la diaspora où se trouve environ 20% de l'électorat moldave.
Maria Gert Nicolașcu de la capitale moldave. De nouveaux drones observés la nuit dernière au Danemark, encore une fois au-dessus de sites militaires pour la deuxième journée consécutive. Le rétablissement depuis hier soir des sanctions de l'ONU contre Téhéran, accusé d'enrichir son uranium à des fins militaires, eh bien ces sanctions ne doivent pas signifier la fin de la diplomatie avec l'Iran. C'est ce que tient à souligner ce matin la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
C'est la première fois qu'il a une parole publique depuis son départ brutal de Matignon le 9 septembre dernier. François Bayrou a réuni les siens aujourd'hui à Lille-sur-la-Sorgue, c'est dans le Vaucluse. Université de rentrée du Modem, où vous êtes, Laurence Perron, bonjour.
Bonjour Éric.
François Bayrou a suggéré à son successeur de favoriser les compromis.
Oui, un François Bayrou requinqué, entouré des siens, dans le cadre bucolique et ensoleillé d'un village de vacances provençales, voilà pour la photo. À la tribune, il se dit fier de son bilan, tout en dressant le portrait d'un pays assailli par les extrêmes.
Tous les deux habités par des obsessions. L'extrême droite par l'obsession de l'immigration et l'extrême gauche par l'obsession du ciblage des « riches », entre guillemets, comme on dit.
Un pays menacé quand l'Europe capitule devant un Donald Trump, capable de traiter ainsi son prédécesseur.
N'ayez pas pitié de lui, car il a toujours été et il est aujourd'hui un sale fils de pute. Mean son of a bitch.
Un pays en péril s'il n'accepte pas de régler le problème de la dette.
Une menace extrême.
Un pays en proie au doute quand un ancien président de la République pourrait bientôt dormir en prison alors qu'il a fait appel de sa condamnation.
Si on adopte la généralisation du principe de l'exécution provisoire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'appel possible.
On le sent encore très meurtri par l'affaire Betaram. Il clôt son discours par un poème de Kipling.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles traversées par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, alors tu seras un homme, mon fils.
François Bayrou revient dans le débat en paix, enjoignant le nouveau Premier ministre à jouer lui aussi les pacificateurs.
Laurence Perron aux universités de rentrée du Modem. À gauche, tous les représentants, hormis LFI, étaient réunis hier à Abraham, dans l'Aude, brandissant la menace d'une censure immédiate pour les insoumis, alors que les socialistes, Olivier Faure en tête, seraient prêts à donner encore un petit peu de temps à Sébastien Lecornu. Y a-t-il une stratégie commune à gauche? Eh bien, on en parle avec notre invité, Yann Brossa, bonjour.
Bonjour.
Sénateur communiste et conseiller de Paris, François Bayrou, donc ce matin, qui demande à son successeur, entre les lignes, à ne pas fermer la porte à gauche. Comment les communistes regardent-ils cette politique de la main tendue?
Pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est qu'on a un Premier ministre qui a annoncé la couleur. Il a donné une première interview après avoir été longtemps silencieux. Et dans son interview, il dit qu'il part d'une feuille blanche, mais sa feuille blanche est tellement pleine de lignes rouges qu'on a le sentiment d'avoir affaire à un Premier ministre qui n'est pas prêt à avancer. Au fond, c'est monsieur non. Il dit non à la taxe Zucman, non au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, non à la remise en cause de la réforme des retraites. Bref, il est là pour poursuivre l'œuvre d'Emmanuel Macron.
Et il donc, dit non, dites-vous, mais il refuse en même temps un budget de rigueur. Il se dit même prêt à des compromis au Parlement. Est-ce que les communistes sont ouverts à cette politique du compromis?
Mais pour l'instant, le blocage, il ne vient pas de nous, il ne vient pas de la gauche, il vient du Premier ministre lui-même et en réalité du président de la République. Et le fait même d'avoir nommé Sébastien Lecornu, qui est ministre depuis 8 ans, c'est un aveu extraordinaire. C'est la preuve que le président de la République lui a donné pour consigne de poursuivre la même politique. Et donc très clairement, s'il s'agit de poursuivre la politique qui est menée par le président de la République depuis 8 ans, nous n'allons évidemment pas laisser le Premier ministre faire ça, surtout que les Français, aux dernières élections législatives, ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Ils disent qu'ils veulent que ça change et on leur impose la continuité, ça ne peut pas fonctionner.
La menace donc d'une motion de censure que les insoumis souhaitent rendre immédiate, les socialistes seraient prêts à donner un peu plus de temps à Sébastien Lecornu. Est-ce que la gauche parle bien d'une seule voix concernant le calendrier de cette éventuelle motion de censure?
Je pense qu'à un moment donné, on aura la vérité des prix. Et en l'occurrence, plus les jours passent, plus il devient clair que le Premier ministre n'est pas prêt à engager les changements qui sont attendus par les Français. Et donc, le moment venu, je suis persuadé que si le Premier ministre persiste à vouloir continuer cette politique rejetée par la grande majorité des gens, la gauche sera unie pour censurer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que tout ça viendra assez vite s'il se confirme que le Premier ministre veut avancer sur cette voie-là.
La gauche unie, dites-vous, le rassemblement de la gauche, Yann Brossat, vous le souhaitez aussi pour les municipales l'an prochain. Vous êtes d'ailleurs candidat à Paris. D'ailleurs, pourquoi seriez-vous le mieux placé à Paris avec l'étiquette communiste pour rassembler les écologistes et les socialistes dans la capitale ?
Parce que je pense que ça n'est pas une question d'étiquette. D'abord, je suis profondément convaincu que la gauche doit avancer unie aux élections municipales à Paris, parce que la menace de la droite, de Madame Dati, est plus forte que jamais. Et si nous voulons que Paris reste une ville progressiste, engagée pour l'écologie, engagée pour la justice sociale, on a besoin de se rassembler et on a besoin d'avoir pour chef de file quelqu'un qui n'a pas peur de combattre la droite. Je crois que j'en ai fait la démonstration comme adjoint à la maire de Paris en charge du logement, en permettant par exemple qu'on installe du logement social dans des quartiers qui n'en avaient jamais vu la couleur, malgré l'opposition virulente de la droite. Et donc je pense que cette combativité-là, on en aura besoin face à Madame Dati.
Et où en sont vos discussions d'ailleurs pour trouver un accord commun à Paris avec le socialiste Emmanuel Grégoire ou l'écologiste David Belliard ?
Nous discutons, je discute beaucoup avec eux et avec David Belliard et avec Emmanuel Grégoire. Moi, mon souhait vraiment, c'est qu'on ait une liste d'union dès le premier tour pour maximiser nos chances de victoire.
Encore un mot, Yann Brossat, sur le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a étrié la gestion financière de la capitale. Trop endettée, la ville pieds et poings liés aux emprunts alors que les recettes fiscales seraient déjà à leur maximum. Quel regard portez-vous sur ce rapport ?
Moi, j'assume parfaitement la politique de la ville de Paris. Nous avons fait le choix de l'investissement. Nous avons réussi, grâce à ces investissements, à diviser par deux la pollution à Paris en l'espace de 20 ans, à diminuer le nombre de morts liés à la pollution. Tout ça n'est pas tombé du ciel. On l'a fait grâce à des pistes cyclables, grâce à la végétalisation de nos rues. Et donc ça s'assume parfaitement.
Vous assumez l'endettement de 120% en 10 ans.
Mais j'assume parfaitement le fait qu'on ait mené une politique d'investissement pour préparer l'avenir. Et la grande différence entre la dette de la ville et la dette de l'État, c'est que nous avons investi pour transformer notre ville, pour réaliser de l'investissement, pas pour assumer des dépenses courantes. Merci. Comme c'est le cas de l'État aujourd'hui.
Merci beaucoup. Yann Brossat,
merci à vous.
Sénateur communiste et conseiller de Paris, entretien enregistré il y a quelques minutes. Les mots ce matin de Nicolas Sarkozy dans le JDD, condamné à 5 ans de prison. Il ne veut pas d'une grâce présidentielle et accuse les juges de violer l'état de droit. Des propos contre les magistrats qui inquiètent la présidente du syndicat de la magistrature, Judith Allenbach. Elle pointe chez Nicolas Sarkozy une volonté d'humiliation.
Nicolas Sarkozy alimente ce ressentiment, il met de l'huile sur le feu, il redouble de violence en fait dans ses attaques et c'est inacceptable puisque en réalité il n'y a aucune haine, il n'y a aucun cas Nicolas Sarkozy dans la magistrature. Ce monsieur a été jugé comme n'importe quel autre justiciable, les magistrats traitent des dossiers, ils ne jugent pas en fonction de leurs affects, ils ne jugent pas un programme politique et ils ne jugent pas en fonction d'arrière-pensée ou de sentiments. Ils jugent en fonction de la loi et du droit. On peut parfaitement entendre qu'il y ait des désaccords, une critique de la décision de justice. Et d'ailleurs, il y a des voies de recours, il y a un droit d'appel. Nicolas Sarkozy n'est pas d'accord avec sa décision. Il a fait appel et il y aura un deuxième procès. Et ça, c'est l'immense avantage de l'état de droit. En revanche, on ne peut pas demander à la justice de ne pas sanctionner des infractions quand elle estime que ça a été commis.
La présidente du syndicat de la magistrature, Judith Allenbach, ce matin chez nos confrères de France Info. L'homme de 34 ans, interpellé jeudi après l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans dans l'Orne, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravée. Le suspect est un ami du père de la jeune fille, déjà condamné pour des faits de violence. Il a été placé en détention provisoire. Et attention aux photos de vos enfants postées sur les réseaux sociaux. Une piqûre de rappel avec cette enquête édifiante du journal britannique The Guardian. Elle révèle qu'Instagram et Meta ont utilisé des photos de jeunes écolières âgées parfois de 13 ans seulement comme produit d'appel pour son autre réseau social Thread. Explication à Londres avec Laurélie Carive.
C'est un homme de 37 ans qui a signalé le phénomène. Depuis plusieurs jours, il voit apparaître sur son fil Instagram des photos d'adolescentes de 13, 15 ans, en uniforme d'écolière, jambes nues pour certaines. On distingue leur visage, leur nom est aussi souvent mentionné. Ce sont en fait ce qu'on appelle des publications suggérées qui invitent à découvrir Threads, un autre réseau social de Meta. Sauf que ces photos ont été postées par les parents des jeunes filles à l'occasion de la rentrée. Et c'est avec effroi qu'ils ont découvert l'usage qui en était fait. Une mère explique qu'elle pensait poster en privé. Elle ignorait que ses publications Instagram étaient automatiquement publiées sur Threads, sur un compte public. Une autre publication postée sur un compte peu suivi a été vue près de 7000 fois, à 90% par des utilisateurs qui n'étaient pas abonnés et des hommes 9 fois sur 10. Accusée d'utiliser ces jeunes filles comme appât à des fins commerciales, Meta répond en expliquant que ces images n'enfreignent pas le règlement et qu'elles ont été postées par des adultes sur des comptes ouverts à tous.
Laurélie Carrive, service culture et écran de France Inter. Les championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali au Rwanda. Après les femmes hier, les hommes sont en selle en ce moment. Depuis près de 3h30, l'arrivée est prévue autour de 16h30 à Paris, heure de Paris. Un parcours difficile, nous sommes en altitude avec le mont Kigali en perspective. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En direct de Kigali, le Slovène Tadej Pogacar, toujours favori. En revanche, chez les Français, ce n'est vraiment pas la grande forme. Hein.
C'est vrai que la journée a très mal commencé avec Julien Alaphilippe. Bah, dès la signature, qui a confié qu'il n'était pas très bien. Apparemment, mauvaise nuit, intoxication alimentaire et abandon dès le premier tour. Ensuite, Louis Barret, pareil, le visage blême. Il a tenu un petit peu plus longtemps, mais a abandonné. Alors, on a quand même un Français toujours en tête. C'est Julien Bernard. Il a pris l'échappée matinale. Ils sont trois désormais coureurs en tête avec deux petites minutes d'avance sur le peloton. Un peloton dans lequel tout n'est pas perdu pour les tricolores parce qu'il y a un coureur qui paraît très bien, on n'en parle pas beaucoup, c'est Pavel Sivakov, coéquipier tout au long de l'année de Tadej Pogacar, donc à suivre. On approche, hein, dans 15 km ce sera le mont Kigali et son sommet à 1771 mètres d'altitude.
Fanny Lechevestrier en direct du Rwanda. La moto GP avec l'Espagnol Marc Marquez qui a décroché ce matin au Japon son 7e sacre de champion du monde. Voilà une autre forme de sport, la spéléologie, aussi une discipline de découverte. Eh bien, en Savoie, une cinquantaine de spécialistes du sauvetage souterrain se sont lancés dans un entraînement de 10 heures. En conditions réelles, il s'agissait d'aller secourir une victime à plus de 50 mètres de profondeur. Exercice rare, hors norme, à la Fleca. C'est en Savoie. Reportage de Léopold Picot.
De l'argile partout sur sa combinaison, jusque dans sa barbe, Charlie Guichevaron sort de la grotte.
Nous, on était vraiment l'équipe première intention, donc on a installé toutes les cordes et on avait un petit point chaud, donc quelque chose pour réchauffer la victime.
Le spéléologue fait un point au poste de commandement avec les conseillers techniques.
On ne fait pas la solution qu'on a prévue de sortir avec les...
Pierre-Olivier Chabot et son collègue doivent prendre des décisions vitales pendant des heures.
Donc l'exercice a commencé à 7h du matin. On devrait terminer sur les coups de 16-17h dans ces eaux-là.
9h.
Ouais, 9h.
Les deux hommes coordonnent 19 personnes sous terre, elles soignent la victime, élargissent les galeries pour la civière ou installent des câbles de communication. Ça, c'est la Fédération des radioamateurs de la sécurité civile qui s'en charge, Gaël Monnier, le responsable.
Les fréquences radio pénètrent assez mal dans les sous-sols, donc c'est pour ça que le fil a encore quelques belles années devant lui au niveau du souterrain. Et dès qu'on est en aérien, on va passer par la voie hertzienne, du point d'entrée du gouffre jusqu'au point décisionnaire qui est ici.
Une fois que les infos circulent, il faut les hiérarchiser, les noter. Audrey Thomas est l'une des tours de contrôle.
Donc là, on a une équipe qui vient de sortir sous terre et qui va retourner au PC, c'est-à-dire ici, pour venir chercher du matériel.
Tout ce monde venu de Savoie et d'Isère travaille bénévolement en soutien aux pompiers et aux gendarmes spécialisés.
Léopold Picot, ici Savoie. Je vous propose, pour refermer ce journal, de devenir chasseur de champignons cette saison. Nous partons en Bourgogne, en forêt de Leuglet. Thomas Nougaillon a accompagné des chasseurs de champignons emmenés par le président de la société mycologique 10 sur Thil en Côte d'Or. Et attention, tous ne sont pas comestibles.
Panier à la main, grosses chaussures aux pieds, on est dans les bois. Alain Gardiédé est à la recherche de champignons. Et hop, un boulet de Satan.
On le repère avec son chapeau blanc. On va le retourner. Il a le pied rouge. Et puis il a une odeur nauséabonde aussi, celui-ci. Hein.
Ça doit inciter à ne surtout pas le manger.
Ah ben oui.
On s'enfonce dans les bois.
Et là,
un champignon.
Oui, et même plein d'autres champignons. On en a un cortège incroyable.
Alors un peu plus loin, je me rapproche de Christophe. Christophe qui explique qu'il y a encore quelques jours, les cèpes se trouvaient à foison au fond de nos bois.
La pousse des champignons a été un peu longue à arriver. Mais là, depuis 3 semaines, 1 mois, il y a une très très belle pousse de cèpes, quoi. qu'on n'avait pas vu depuis 5-6 ans. Quoi.
On est presque dans la cuisine, on est presque devant la poêle.
Presque, là il n'est pas loin le persil non plus, mais on cueille juste ce dont on a besoin. L'idée c'est pas d'en récolter des quantités phénoménales. Quoi.
L'Office National des Forêts de Bourgogne-Franche-Comté rappelle d'ailleurs qu'il faut se limiter à 5 litres de champignons par personne. Au-delà de 5 litres, c'est une amende de 135 euros. Vous reconnaîtrez que ça fait un peu cher l'omelette.
C'est un peu cher, effectivement. Reportage ici, Bourgogne. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec du soleil sur la moitié nord cet après-midi.
Oui, enfin, parce qu'hier il a tardé à se montrer, mais aujourd'hui la situation se débloque. Les nuages bas qui étaient bien présents ce matin se sont morcelés et laissent place à de larges éclaircies, sauf sur le nord-ouest où on a une petite perturbation qui est très peu active. Hein, elle traîne encore sur la Bretagne, sur le Cotentin, surtout sous forme de nuages et avec même quelques éclaircies timides sur le Finistère ou la Manche.
Et sur la moitié sud, ce sera un peu plus nuageux.
Oui, des nuages poussés par l'ex-ouragan Gabriel qui vient s'échouer sur la péninsule ibérique, donc qui remonte d'Espagne et du Portugal, et qui apporte ce ciel chargé de l'Aquitaine vers la Provence. Il reste tout de même du soleil des Alpes vers la Corse, il sera un petit peu plus généreux sur ce secteur. Quant aux températures, on se rapproche enfin des normales de saison avec une moyenne qui va cet après-midi de 17 degrés à Brest jusqu'à 25 à Ajaccio.
Les prévisions tout en sourire de Céline Dacosta.